Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asselet, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver dans le cadre de nos conversations. Vous êtes toujours en Israël, Daniel, et on va continuer avec vous notre analyse de la situation géopolitique mondiale vue d'Israël. Mais en ce moment, on se rend compte que la situation sécuritaire est réellement tendue en Israël. L'actualité aujourd'hui, ce sont ces roquettes en provenance de Gaza. Alors, parmi toutes ces roquettes qui pleuvent sur l'État hébreu, est-ce que les Israéliens ont l'occasion de penser à autre chose, Daniel, à savoir, eh bien, la géopolitique?
Oui, alors vous savez, c'est toujours très relatif. Vu d'extérieur, la situation semble plus dramatique que vue d'ici. Les plages sont pleines, les restaurants sont pleins. Au moment où on lançait des roquettes sur Tel Aviv, il y avait un grand concert dans un parc d'un chanteur très connu. Donc, en fait, la vie continue. La vie quotidienne. Les Israéliens sont habitués à ces épisodes où on voit bien que les différentes factions palestiniennes tentent de se positionner pour l'après Abbas, je l'ai déjà dit, et sont évidemment encouragés par l'Iran à créer tous ces troubles. Là, c'est le djihad islamique qui est en tête, qui essaye de faire parler de lui en préparant des attentats. Tzal a décidé de prévenir plutôt que de guérir. Donc, il y a eu des assassinats ciblés de leaders du djihad islamique à Gaza, et les membres du djihad ont fait savoir que ils étaient obligés de répondre, que c'était leur stratégie, et qu'ils savaient que ça leur coûterait très cher. Et effectivement, les bombardements font beaucoup de dégâts à Gaza. Malheureusement, il y a eu un mort à Rehovot, dans une localité proche de Gaza, mais en général, les roquettes, évidemment, soit sont interceptées, soit tombent sur Gaza elle-même, soit tombent en mer. Donc, bon, on a l'habitude, simplement, le djihad islamique est en train de prendre une position très importante dans les différentes factions, essaye de remplacer le Hamas, et donc n'hésite pas à payer le prix très élevé de passer pour des héros, et surtout ont envie de négocier avec Israël. Vous savez que chaque fois qu'il y a des bombardements à Gaza, il y a immédiatement des négociations qui s'engagent en Égypte. Et là, c'est le djihad qui est très fier de négocier avec l'État d'Israël, quoi qu'ils disent. Et évidemment, leurs demandes sont toujours excessives. Et comme Tsahal refuse, le gouvernement israélien refuse, eh bien, il y a une prolongation des lancements de roquettes et des bombardements. Donc, tout le monde s'apprête à ce que ça dure encore quelques jours. Mais ça n'empêche pas la vie de continuer. Alors, vous me posiez la question de savoir si Israël pense à la géopolitique. Bon, c'est vrai que le peuple israélien est un peuple qui est au cœur de la géopolitique mondiale. Donc, c'est vrai que c'est le peuple peut-être le plus concerné par la géopolitique, parce que tout ce qui se passe dans le monde finit par avoir un impact par Israël. Quelquefois, Israël est au premier rang, comme c'est pour la menace islamique. Donc, oui, on continue, surtout dans les milieux, disons, experts, à parler de géopolitique, et en particulier à observer que, après une intense activité diplomatique qui avait commencé, vous en souvenez, autour de la réélection de Xi Jinping au mois de novembre, déjà 1 ou 2 mois avant, il y a eu des mouvements, des initiatives prises par la Chine. Et donc, depuis septembre 2022, la Chine est à la manœuvre. Elle est sans cesse en train de prendre des initiatives, vous vous souvenez, vis-à-vis de la Russie. Xi Jinping est allé en Russie, vis-à-vis de l'Europe. Toute l'Europe s'est rendue à la queue leu-leu à Pékin. Il y a eu ce fameux accord négocié en Chine entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, dont on reparlera. Donc, oui, la Chine est constamment à la manœuvre, mais en ce moment, il y a une pause.
Alors, Daniel, vous nous parlez de la Chine et on se demande comment Israël perçoit justement les initiatives chinoises.
Bien, toutes les initiatives chinoises qui sont au fond dans toutes les grandes zones de tension du monde concernent Israël. C'est vrai pour la grande confrontation entre les États-Unis et la Chine. L'impact sur Israël, c'est le plus fort, parce que c'est Israël qui reçoit le plus de pression pour s'aligner sur les États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises israéliennes qui ne peuvent plus faire d'affaires en Chine, notamment dans les équipements militaires, donc qui ont fermé leurs bureaux. Il y a moins d'investissements chinois ici, mais on se rattrape en Israël avec les autres marchés en Asie, Japon, Corée, et puis en Europe et aux États-Unis. Donc on arrive à vivre assez bien avec ces situations. Et puis c'est surtout l'activité ici au Moyen-Orient, l'activité de la Chine au Moyen-Orient qui préoccupe. Et là, l'analyse qui est faite du dialogue renoué entre l'Arabie Saoudite et l'Iran entraîne une grande division des opinions. Certains pensent que c'est une catastrophe pour Israël parce que ça éloigne l'Arabie Saoudite du chapeau sécuritaire israélo-américain. Et donc, moins d'espoir d'avoir l'Arabie Saoudite rejoindre les accords d'Abraham. Mais ceux qui sont plus optimistes, dont je fais partie, pensent qu'en réalité, l'Arabie Saoudite va très vite comprendre que son besoin numéro un étant des garanties de sécurité. C'est quand même un royaume qui est menacé de l'intérieur et d'extérieur, et même s'il est très riche, il n'a pas la puissance de feu d'Israël ni des Américains, et les Arabes comprennent assez bien que ce n'est pas la Chine qui veut leur apporter des accords, des garanties de sécurité. Ils l'ont jamais promis, ils ne le feront pas. Donc je pense qu'au bout d'un moment, les Saoudiens se rapprocheront à nouveau d'Israël pour se rapprocher des États-Unis. Et donc là aussi, il y a une sorte, au fond, d'optimisme.
Alors pour en revenir à la Chine, Daniel, est-ce qu'on peut définir la vision d'Israël sur la Chine?
Oui, alors ici, comme toujours, sur cette grande question, qui est la question au fond principale, parce que, au fond, tout le monde sait ici et dans le monde que rien ne s'arrangera, aucun compromis, aucune paix ne se fera s'il n'y a pas un accord entre les États-Unis et la Chine. C'est la clé. Et donc, tout dépend, au fond, de la perception que l'Occident a de la Chine. Et la vraie question, c'est est-ce que tout le monde doit, du côté occidental, penser comme les Américains, à savoir que la Chine est une menace. Les Américains le définissent, c'est un pays qui est à la fois communiste, agressif et dominateur. Est-ce que ici en Israël, mais c'est vrai aussi en Europe et au Japon, est-ce qu'on pense comme ça? Évidemment, pas du tout. Ici, les évaluations sont beaucoup plus nuancées. Vous avez deux camps, comme toujours. Les camps sécuritaires, l'armée, la presse, les citoyens sont avant tout préoccupés de sécurité et sont persuadés évidemment que l'Amérique c'est le seul garant de la sécurité et qu'il faut jamais rien faire qui puisse mettre en colère l'allié américain. Donc il faudrait se ranger du côté américain. Mais les experts, eux, ils voient un petit peu plus loin et en particulier, ils pensent que il faut pas abandonner une vision plus large de l'avenir et du monde. Et là, pour caricaturer un peu, on dirait qu'il y a trois grandes justifications à tenter de garder avec la Chine des liens les meilleurs possibles. La première, c'est l'histoire, c'est se souvenir que Ben Gurion lui-même et Shimon Peres ont toujours pensé que la Chine deviendrait la grande puissance mondiale par la taille de sa population et par ses capacités culturelles, et que Israël, au fond, était en Asie, et que une partie de l'avenir d'Israël se jouerait avec la Chine, et donc il faut pas abandonner le qu'on pourrait appeler le rêve chinois. Et donc vous avez ici beaucoup de gens qui continuent à penser comme ça. D'autres justifications sont quand même des doutes sur les États-Unis. Il y a quand même un doute sur la crédibilité américaine lorsqu'elle parle de garantie. On a vu qu'elle avait beaucoup reculé dans le monde. Et puis, on regarde quand même cette tendance isolationniste américaine qui est profonde, hein, qui part d'Obama, qui continue avec Trump, qui se poursuit avec Biden, et on ne sait pas où on ira avec le prochain président. Cette idée que, au fond, les Américains ont payé trop cher leur déploiement dans le monde et qu'il est temps un petit peu de se replier. Beaucoup pensent que le rêve américain, c'est de se retirer du Moyen-Orient et de l'Europe, une fois que la guerre en Ukraine sera résolue, pour, au fond, fermer la porte à la Chine et se trouver bien heureux. Donc, il y a ces doutes, au fond, sur cette crédibilité américaine. qui vient s'ajouter à cet espoir d'une Chine qui sera une grande puissance. Donc on voit bien que tout ça joue en faveur d'une vision relativement ouverte vis-à-vis de la Chine, surtout, et ça c'est le troisième argument, la Chine est présente au Moyen-Orient. Elle a des accords avec tout le monde, avec les Turcs, mais surtout avec les Iraniens et avec les Saoudiens. Et donc Israël ne peut pas rester le seul pays qui n'aurait pas de bon rapport avec la Chine. C'est tout le contraire. Donc il y a ce jeu-là dont on parlera plus en détail plus tard, qui fait que ici, donc le débat est partagé, c'est plutôt un débat d'experts. La tendance populaire, elle est comme dans le monde, c'est un petit peu de se méfier de la Chine, mais c'est surtout par ignorance. On ne connaît pas bien la Chine, on est obligé de se réfugier dans des lieux communs, communistes agressifs et dominateurs. Et donc les analyses qui sont faites par les vrais experts sont plus nuancées. Vous voyez, comme c'est pas un sujet immédiat, c'est pas le sujet qui préoccupe le plus ni la population israélienne, ni le gouvernement.
On imagine, Daniel, qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous prochainement. Merci beaucoup pour vos éclairages, Daniel. On vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.
À bientôt.